bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Mathias Bonal, je suis doctorant en microbiologie à l'Université libre de Bruxelles, en Belgique. Moi, je suis plutôt spécialisé en bactériologie, et donc ma spécialité, c'est plutôt les bactéries. Mais si je suis là pour vous parler de virus, c'est quand même que j'ai certaines bases en virologie, notamment par mon parcours universitaire, parce que j'ai fait mes trois premières années d'études étaient en biologie cellulaire, et on a eu des cours d'immunologie assez poussés, où on a vu pas mal de choses sur les virus. Et puis, depuis, j'ai aussi lu pas mal d'articles et autres sources du même style pour me renseigner, donc d'où ma légitimité à en parler. Maintenant, je sais pas dans l'assistance s'il y en a qui ont des connaissances éventuellement un peu poussées en virologie. Si jamais je dis des étourderies, n'hésitez pas à le dire et à me corriger, parce que je suis comme tous les humains, je suis faillible. Mais bon, j'ai quand même fait ce travail de façon la plus rigoureuse possible pour essayer que ce soit un travail de qualité basé sur des sources fiables, mais bon, on ne sait jamais, donc je voulais dire ça. Je voulais dire aussi que donc tous les slides seront en accès libre, comme je l'ai mis là sur le drive, je le mettrai aussi sous format PowerPoint. Donc si vous voulez les utiliser pour votre usage personnel, pour le partager avec d'autres, n'hésitez pas, tant que vous citez mon nom, il n'y a pas de problème. Et je vais aussi donner quelques termes un peu techniques qui ont attrait à la biologie cellulaire et moléculaire pendant cette conférence. Donc je vais essayer de les expliciter à chaque fois. Mais si jamais il y a certains termes que j'ai oublié de préciser ou que vous êtes complètement perdu, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Et ma conjointe Alice, qui est dans la même pièce que moi, me dira directement si jamais il faut que je m'arrête et que j'explique quelque chose. Je préfère ça plutôt que vous soyez largués jusqu'à la fin. Voilà. Dernière chose, à la fin de la conférence, une fois que vous m'aurez posé éventuellement des questions, on organisera un petit débat sur le thème « Est-ce que les virus, selon vous, sont des entités vivantes ou pas ?» Sachant que c'est une question qui divise encore aujourd'hui la plupart des scientifiques, et donc c'est pour ça que je trouvais que c'était une question intéressante, c'est parce qu'on n'a pas vraiment de réponse, et du coup, ce sera intéressant de voir un peu les arguments des uns et des autres. Donc, allons-y pour une histoire et une description des virus. Donc, les virus, il faut savoir que ça existe évidemment depuis l'aube de la vie, en fait, mais que jusqu'à la deuxième moitié du 19e siècle, on n'avait aucune idée ni d'à quoi ils ressemblaient, ni de ce que c'était. En fait, on ne les avait pas découverts avant cette époque-là. Donc, Pasteur, il a fait l'hypothèse qu'il existait des pathogènes qui étaient trop petits pour être détectés au microscope. Pourquoi il a fait cette hypothèse ? Parce que quand il étudiait la rage, il n'arrivait pas à trouver l'existence de l'agent infectieux qui en était responsable. Donc il observait des cellules infectées par la rage au microscope et il n'arrivait pas à voir de pathogène dedans. Et donc il s'est dit, bon, il y a d'office un pathogène qui existe pour la rage, la preuve, il en a fait un vaccin, mais malgré tout, il ne savait pas ce que c'était. Donc il a fait cette hypothèse. Par la suite, il y a un scientifique français qui s'appelle Chamberlain qui a inventé un filtre auquel il a donné son nom, qui ressemble au schéma que vous voyez là. Donc en fait, c'est un filtre qui a pour objectif de, entre guillemets, purifier un liquide de ces bactéries. C'est-à-dire qu'on fait passer un liquide avec des bactéries là-dedans, et ce qui en ressort, c'est un liquide sans les bactéries qui ont été retenues à l'intérieur du filtre. Par la suite, un scientifique russe qui s'appelle Ivanovsky, il a étudié le virus de la mosaïque du tabac, ou TMV pour Tobacco Mosaic Virus en anglais. Donc c'est un virus qui cause les taches là, que vous voyez sur cette feuille de tabac, caractéristique. Et donc il a utilisé le filtre de Chamberlain pour étudier ce virus. Il a cru d'abord que c'était une toxine bactérienne, parce qu'il a vu que le liquide qui passait par le filtre, il pouvait toujours contaminer le tabac. Mais par la suite, il a abandonné cette idée. Et la date clé, c'est celle que j'ai mise en rouge, là, 1898, la réintroduction du mot virus par le scientifique néerlandais Behring et observation de multiplication virale dans des cellules en division. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait, Behring ? Il a refait les expériences d'Ivanovsky et il était convaincu que la solution filtrée par le filtre de Chamberlain contenait une nouvelle forme d'agent infectieux. Et il pensait, lui, que les virus étaient de nature liquide, mais et soluble, mais par la suite, lui a prouvé qu'il avait tort. Mais en tout cas, c'est lui qui a vraiment réintroduit ce mot virus et qui a observé la multiplication virale dans les cellules en division. Donc la date clé pour vraiment la découverte entre guillemets des virus, c'est ça. Alors ensuite, on arrive à la première moitié du XXe siècle. Donc le scientifique anglais Twort a découvert les bactériophages. Donc les bactériophages, ou phages tout court, c'est des virus qui infectent les bactéries. Et ça ressemble à ce petit schéma que vous voyez en 3D. Alors on croirait ça tout droit sorti d'un bouquin de science-fiction, mais non, je vous assure, c'est vraiment à ça que ressemblent donc les virus qui infectent les bactéries. On aura l'occasion d'y revenir par la suite. Donc on arrive, comme je disais, à la première moitié du XXe siècle, et donc il y a ce médecin anglais Twort qui découvre donc ces fameux bactériophages qui sont des virus qui infectent les bactéries, qui ressemblent au schéma que vous voyez là. Ensuite, des années 1900-1930, on a le développement de plusieurs techniques pour cultiver les virus sur des tissus d'animaux, parce que les virus, on ne peut pas les cultiver autrement que dans des cellules, en fait. Ensuite, en 1931, on a les premières images de virus qu'on obtient en microscopie électronique. Et là, ce que vous voyez sur cette image en microscopie, c'est des virus de la poliomyélite. Et en 1955, on décode la structure complète donc, du virus de la mosaïque du tabac, ou le TMV, grâce aux travaux de Rosalind Franklin, qui a développé la cristallographie au rayon X. Et en même temps, on a la compréhension du mécanisme de réplication virale par les scientifiques Frankel, Conrad et Williams. Donc le schéma que vous avez en bas à droite, ça représente le virus de la mosaïque du tabac. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça a une forme un peu hélicoïdale, comme ça, enroulée sur lui-même. Donc ensuite, deuxième moitié du XXe siècle, donc là, c'est l'âge d'or de la découverte des virus. De 1965 à 1970, on découvre le premier rétrovirus, c'est-à-dire le premier virus à ARN, et ça se fait conjointement avec la transcriptase inverse. Donc, qu'est-ce qu'un rétrovirus ? C'est un virus à ARN, comme je l'ai dit, parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'on pensait que toutes les entités vivantes avaient forcément de l'ADN. Et donc, cette découverte-là a un peu révolutionné la chose, parce qu'on s'est rendu compte qu'il existait aussi des virus à ARN. Et la transcriptase inverse, qu'est-ce que c'est ? C'est une enzyme qui est utilisée par les virus, notamment, pour transcrire l'ARN en ADN. Donc jusqu'ici, on pensait qu'on pouvait seulement passer de l'ADN en ARN jusqu'à ce qu'on découvre cette enzyme qui permet de faire l'inverse. Ensuite, en 1971, j'ai oublié de dire que la photo que vous voyez en microscopie, là, c'est le VIH. Donc ensuite, en 1971, on découvre les viroïdes. Les viroïdes, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des ARN libres, en fait, qui infectent les plantes. Et donc là, j'ai pas vraiment de photo à vous montrer parce que c'est beaucoup trop petit, mais en gros, schématiquement, ça ressemble à l'image que j'ai mise là. Donc juste une molécule d'ARN, quoi. De 1967 à 82, ça a pris un peu de temps, on a découvert et décrit ce qu'on appelle les prions. Donc les prions, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des protéines qui ont une conformation anormale et qui peuvent transmettre cette conformation anormale aux autres protéines similaires qui, elles, normalement, sont bien constituées. Donc si vous êtes infecté par un prion, il va transmettre cette conformation anormale aux autres protéines qui lui ressemblent et c'est ça qui cause la maladie. Je ne vais pas revenir dans la suite de la conférence sur ces deux entités, les viroïdes et les prions, mais c'était pour vous montrer que ça existe et que ce n'est pas classifié dans le virus, mais c'est un mode de réplication un peu similaire. Enfin, au XXIe siècle, on a quand même fait une découverte. Alors en ce moment, vous savez que Raouf est polémique à raison sur plein de choses, mais rendons-lui quand même une découverte de sa paternité avec son équipe, c'est qu'ils ont découvert les virus géants. Donc ça ressemble à ce que vous voyez là en microscopie en bas à droite. C'est des virus qui sont à peu près 10 à 100 fois plus gros que la plupart des virus qu'on connaissait jusqu'alors. Et ceux-là, ils infectent plutôt les amibes. Donc ce n'est pas du tout des virus qui peuvent infecter des animaux. Alors ensuite, description des virus. Donc un virus, qu'est-ce que c'est ? Alors au niveau de la taille, ça fait entre 20 et 400 nanomètres. Donc un nanomètre, c'est un milliardième de mètre. Donc 20, c'est pour les plus petits, 400, c'est pour les virus géants. Ils sont composés tous, sans exception, d'un acide nucléique et d'une capside. Et l'ensemble de ça, on appelle ça une nucléocapside, en fait. Et après, il y a des virus qui ont une enveloppe autour de ça, mais pas tous. On a quatre types principaux de virus. Donc le premier, c'est celui qui est en bas, là, les hélicoïdaux. Donc c'est typiquement le virus de la mosaïque du tabac dont j'ai déjà parlé. Donc au microscope, vous voyez, ça ressemble à des espèces de tiges, comme ça. Et quand on zoome sur ces tiges, on voit qu'en fait, c'est un enroulement de protéines qui protège un acide nucléique qui est lui-même enroulé, donc avec cette forme hélicoïdale caractéristique. Ensuite, le deuxième type, c'est les virus isocaédriques. Donc ça ressemble à ça, c'est une forme géométrique très, très caractéristique. Le petit schéma que vous voyez à droite, ça montre avec l'assemblage de deux types de protéines virales qui peuvent donner donc, cette forme caractéristique. Et ce que vous voyez là en microscopie, c'est un virus de la famille des adénovirus, c'est ceux entre autres qui causent le rhume que tout le monde se chope en hiver ou presque. Ensuite, le troisième type de virus, c'est les virus enveloppés. Donc ça, c'est les virus qui, je pense, dans le grand public, sont les plus connus en termes d'imaginaire collectif. Donc c'est ces virus avec des protéines qui dépassent de la membrane et cette forme un peu sphérique comme ça. Et donc là, l'image que vous voyez en microscopie en dessous, c'est le virus, le VIH, donc le virus responsables du sida. Et enfin, le dernier type, c'est les virus complexes, dans lesquels on classe notamment les bactériophages, donc ces virus qui infectent les bactéries. Là, vous voyez en microscopie à quoi ça ressemble. Donc, je vous avais dit, hein, ça a une forme très, très spéciale, tout droit sortie d'un film de science-fiction. Et donc, ils sont composés d'une tête qui protège l'ADN et un corps qui va permettre de se fixer à la paroi des bactéries et ensuite d'injecter l'ADN dedans. Le génome des virus, de quoi il est composé ? Donc, il est composé soit d'ADN, soit d'ARN. Alors, petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas la différence ou qui l'auraient oublié. Donc, regardez le schéma que j'ai mis en bas à droite. Là, il y a deux principales différences entre l'ADN et l'ARN. C'est d'abord le sucre qui les compose. Donc, pour l'ADN, c'est le désoxyribose. Et pour l'ARN, c'est le ribose. Donc, il y a juste un groupement OH en plus dans le ribose. C'est la seule différence. Et la deuxième différence principale entre ces deux molécules, c'est qu'elles encodent toutes les deux le matériel génétique avec des bases azotées. Il y en a trois qui sont communes aux deux molécules, donc c'est l'adénine, la guanine et la cytosine, donc les bases A, G et C. Mais la quatrième, chez l'ARN, c'est l'uracil, donc U, alors que chez l'ADN, c'est la thymine, donc T. Ensuite, donc, le génome, il est soit simple, soit double brin chez les virus, ou parfois les deux, ça arrive aussi. Il est soit circulaire, soit linéaire, et il est segmenté ou pas. Donc segmenté, ça veut dire que les gènes sont, entre guillemets, bien différenciés. Quand il n'est pas segmenté, ça veut dire que certains gènes se recoupent entre eux et ils peuvent donner des protéines différentes. Et donc ces quatre premières caractéristiques, c'est ça qui permet de donner la classification des virus telle qu'elle est utilisée aujourd'hui par les scientifiques. Un virus aussi, c'est le génome pardon, du virus, c'est composé de 2000 bases pour les plus petits. Donc ça code seulement pour deux protéines, jusqu'à 2 millions de bases pour les virus géants, et ça code pour à peu près 2500 protéines. Il faut savoir aussi que les virus, comme toutes les entités vivantes ou pas, ce sera le débat de tout à l'heure, ils subissent la sélection naturelle et donc les mutations. Et ça, c'est important à retenir parce que les virus, ils ont joué un grand rôle dans l'évolution, notamment chez les bactéries, mais pas que, parce qu'ils subissent donc ces mutations comme tous les autres organismes qu'on connaît. Alors, le cycle de vie d'un virus, comment ça se passe ? Donc là, vous avez 7 étapes. La première, c'est l'adsorption à la cellule cible. Donc ça, comment ça se fait ? Vous avez un attachement du virus à la cellule qui se fait grâce à des récepteurs spécifiques qui sont sur la membrane de la cellule. Et les récepteurs, ils sont différents à la fois selon le type de virus et à la fois l'hôte. Donc si c'est une bactérie, si c'est une plante ou si c'est un humain, ce ne sera pas les mêmes récepteurs. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'entrée dans la cellule. Donc il faut savoir que chez les phages qui infectent les bactéries, c'est ce que vous voyez sur le schéma du bas, il y a seulement l'ADN viral qui rentre dans la cellule. Donc le phage, il se fixe à la bactérie, mais il injecte seulement l'ADN viral. Alors que chez les autres virus, c'est une invagination de la membrane des cellules qui permet au virus d'entrer dedans. Donc il y a plusieurs mécanismes de ça. Par exemple, il y a ce qu'on appelle l'endocytose. Donc en gros, la cellule, entre guillemets, avale le virus. Et sinon, pour les virus isocaédriques qui sont plus simples, c'est juste une pénétration de la capside entourée par la membrane de la cellule. Ensuite, la troisième étape, c'est la décapsidation. Donc ça, comment ça se passe ? Il y a des enzymes cellulaires qui détruisent l'enveloppe ou la capside virale, et donc ainsi, le virus il peut libérer son acide nucléique, soit dans le cytoplasme de la cellule, soit dans son noyau. Ça dépend des virus. Ensuite, la quatrième étape, c'est la réplication du génome viral. Donc là, il y a deux voies principales. Soit, si c'est un virus à ARN, il transcrit directement son ARN en ARN messager. Soit, il rétro-transcrit son ARN en ADN, et ensuite l'ADN est intégré dans celui de la cellule hôte. Et pour les virus à ADN, c'est directement ça qui se passe. Puis ensuite, la cellule, par sa machinerie de réplication, va transcrire son ADN, y compris celui du virus qui s'est intégré dedans, en ARN messager, en utilisant sa machinerie de transcription. Et là, on arrive à l'étape numéro 5. À partir de ces ARN messagers vont être traduites des protéines. Il y a deux types de protéines virales. Il y a les protéines structurelles, donc qui composent à la fois la capside et l'enveloppe dans le cas des virus enveloppés, et les protéines non structurelles, donc qui permettent au virus d'avoir la réplication de son génome. Et après cette étape, il y a l'assemblage et l'encapsidation. Donc le génome viral et les protéines virales sont assemblés ensemble pour former ce qu'on appelle des virions, donc c'est des clones de virus, qui vont ensuite, dans la dernière étape, numéro 7, être libérés dans l'environnement, soit par rupture soudaine de la membrane ou par bourgeonnement. Donc ils vont utiliser la membrane plasmique ou la membrane du noyau de la cellule pour pouvoir sortir. Ils peuvent ensuite soit infecter d'autres cellules ou bien rester en dormance dans la cellule. Ça dépend des virus, ça dépend du type de maladie qu'ils causent. Il faut savoir que chez les bactériophages, la bactérie est lysée, donc c'est un cas particulier. Quand les bactéries sont infectées par des virus, elles meurent d'office. Alors que chez la plupart des autres virus, ils ne tuent pas forcément les cellules qu'ils infectent. Avant de passer à la diapo suivante, je voulais juste vous citer le cas des virophages qu'on a découvert il y a quelques dizaines d'années, qui sont des virus qui infectent d'autres virus, juste pour que vous sachiez que ça existe aussi. Donc je vais terminer en dernière partie par vous citer quelques exemples de virus connus. Donc le premier, c'est celui de la grippe saisonnière. Donc en fait, vous voyez sur le schéma de gauche, j'ai entouré deux protéines de extérieure au virus, donc qui sont les deux cibles majeures de la réponse anticorps antivirale. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand votre corps va détecter le virus de la grippe, il va produire des anticorps, qui sont des protéines pour détecter et neutraliser les agents pathogènes, et ces anticorps vont venir se fixer donc à cette hémagglutinine et neuraminidase, qui sont les deux noms barbares de ces protéines, et comme le virus va être entouré de ces anticorps, il ne va plus pouvoir se fixer à la cellule qu'il veut infecter. Le problème du virus de la grippe, c'est qu'il fait ce qu'on appelle l'échappement viral, c'est-à-dire qu'il échappe au système immunitaire pour pouvoir se maintenir chez l'hôte qui l'infecte. Il y a deux processus clés là-dedans. Le premier, c'est ce qu'on appelle la dérive antigénique, c'est-à-dire qu'il va y avoir des mutations ponctuelles spontanées dans les gènes qui codent pour les deux protéines de surface, et ça va causer des modifications discrètes de ces deux antigènes. Donc les antigènes, c'est toutes les protéines qui sont issues d'agents pathogènes. Qu'est-ce que ça va donner? Regardez le schéma à droite, en haut. Vous avez un virus donc, qui va être entouré par les anticorps, comme je vous avais expliqué. Après la dérive antigénique, comme ces antigènes vont être modifiés, les anticorps ne vont plus être capables de se lier à ces antigènes parce qu'ils ne vont plus pouvoir les reconnaître, et c'est là que le virus va pouvoir infecter la cellule. Le deuxième processus clé, c'est ce qu'on appelle la commutation antigénique. Donc en fait, ce qui se passe, c'est le schéma du bas à droite. Vous allez avoir une cellule qui va être infectée par deux types de virus de la grippe différents, par exemple là, la grippe humaine et la grippe porcine. Et ensuite, ces deux virus vont réassortir leur brin d'ARN pour former un virus hybride qui va avoir de nouveaux antigènes. Et là, de nouveau, les anticorps ne vont pas pouvoir reconnaître ces antigènes et donc le virus va pouvoir infecter d'autres cellules. Donc c'est des processus assez spéciaux qui ont évolué au cours de l'évolution et qui font que le virus de la grippe, c'est pour ça qu'en fait, chaque année, on doit trouver un nouveau vaccin. C'est parce qu'il y a ces deux processus qui font qu'il est différent d'une année à l'autre, voire d'un patient à l'autre. Ensuite, un deuxième exemple, c'est ce qu'on appelle le virus Epstein-Barr. Donc ça, c'est le virus de l'herpès humain. C'est un virus à ADN qui a été découvert en 1964 par le professeur Epstein et son étudiante Barr qui lui ont donné son nom. Donc il est responsable de plusieurs maladies, dont l'herpès et aussi la mononucléose infectieuse. Pour ceux qui connaissent ces maladies, vous savez sans doute que c'est des maladies extrêmement contagieuses. Ça cause entre autres des boutons caractéristiques comme celui que vous voyez sur la photo à droite. Et ce virus, lui aussi, il échappe au système immunitaire pour assurer sa survie dans l'hôte infecté. Alors lui, il cible les lymphocytes B. Qu'est-ce que c'est? C'est une famille de globules blancs qui se spécialise en deux types de cellules. La première, ce sont des lymphocytes B qui vont produire les anticorps. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle des lymphocytes B mémoire qui vont permettre d'avoir une réponse immunitaire secondaire si jamais vous êtes réinfecté par la même maladie. Et c'est notamment les lymphocytes B mémoire qu'on vise à produire quand on vous injecte un vaccin. Donc, si jamais vous êtes réinfecté, par exemple, par la rougeole et que vous avez déjà eu le vaccin contre la rougeole, les cellules B mémoire, ils vont pouvoir activer très rapidement votre système immunitaire qui va pouvoir très rapidement éliminer le virus de la rougeole. Donc, ça sert à ça. Alors, sur le schéma que j'ai fait ici, vous voyez un exemple d'élimination classique d'un virus. Donc ça se lit du bas à gauche jusqu'en haut à gauche. Donc vous avez un virus quelconque qui va infecter un lymphocyte B. Pendant qu'il fait toute sa machinerie de réplication, le lymphocyte va détecter qu'il y a des peptides viraux qui ne lui appartiennent pas. Il va les mettre dans un organite cellulaire qu'on appelle le réticulum endoplasmique. Donc c'est les petites lignes bleues que vous voyez là. Et notamment par le complexe protéique qu'on appelle TAP, qui va ensuite amener le peptide viral jusqu'à la surface du lymphocyte B via un complexe qu'on appelle le CMH. Et en fait, ce complexe du CMH, il va présenter le peptide viral à l'extérieur et des autres cellules vont venir, entre guillemets, scanner le lymphocyte B. Donc c'est les deux cellules que vous voyez en haut, les CD4+, et les CD8+. Donc ça, c'est d'autres types de globules blancs. Les CD8+, eux, ils servent à détecter les particules virales donc, qui appartiennent pas au soi, ce qu'on appelle. Et les CD4+, ils vont activer ces CD8+. Donc ça, c'est la première étape, c'est l'activation de l'immunité adaptative. Et la deuxième étape, une fois que ce processus a été fait, c'est l'élimination du lymphocyte B qui a été infecté par le virus par une cellule qu'on appelle NK, donc ça c'est pour Natural Killer en anglais, ou tueur naturel, qui est un autre type de globule blanc encore, qui va venir détruire la cellule infectée pour éviter que le virus ait le temps de se répliquer et puis ensuite d'infecter d'autres cellules. Là où le virus Epstein-Barr est assez fort, c'est qu'il va, dans un premier temps, avec un type de peptide viral particulier qu'on appelle BNLF2A, c'est un nom un peu barbare, il va inhiber le complexe TAP, et du coup, vous vous retrouvez à la surface du lymphocyte avec le CMH seul sans peptide viral. Donc quand les lymphocytes T vont venir, entre guillemets, scanner le lymphocyte B, ils vont pas voir qu'il est infecté, et donc ils vont passer leur chemin. La deuxième étape, c'est l'inhibition de la cellule NK grâce à un homologue de l'IL-10 anti-inflammatoire. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est une molécule qu'on appelle interleukine qui est d'habitude produite par votre système immunitaire lorsque votre infection est quasiment finie ou que vous êtes guéri pour diminuer la réponse immunitaire. Parce que la réponse immunitaire, c'est comme tout, ça demande de l'énergie. Donc il faut la réguler. Et ce virus va donc produire une protéine qui est quasiment identique à cette IL-10 qui va être reconnue comme telle par les cellules NK et qui donc ne vont pas être activées pour venir détruire les lymphocytes B qui sont infectés. C'est pour ça que ce type de virus, quand vous les chopez, en général, vous les gardez toute votre vie. C'est pas forcément des virus qui causent des dommages sévères, mais ils sont très, très latents dans l'organisme pour cette raison-là. Ensuite, je vais vous parler du cytomégalovirus. Donc, c'est un virus de la même famille que le virus Epstein-Barr, parce qu'il fait partie aussi des virus à herpès. Et celui-là, il cible d'autres types de lymphocytes B qu'on appelle les monocytes ou les macrophages. Et celui-là, la différence principale avec celui d'avant, c'est qu'il utilise lui aussi des peptides viraux pour inhiber le complexe TAP, mais qui ont juste un autre nom. Et en plus de ça, il diminue le taux de CMH de surface. Donc les cellules qui vont être infectées vont avoir encore plus de mal à pouvoir présenter des peptides à leur surface. Donc ça, c'était juste pour vous montrer qu'un même mécanisme peut être adopté par différentes espèces de virus. Ensuite, je vais vous parler du VIH, que j'imagine tout le monde connaît, donc c'est le virus qui cause le sida. C'est un virus à ARN qui affaiblit le système immunitaire et qui le rend ainsi vulnérable aux maladies opportunistes. Donc qu'est-ce que c'est des maladies opportunistes? En fait, comment il fait le sida pour vous tuer? C'est pas directement le virus, c'est le fait que, comme le virus affaiblit votre système immunitaire, celui-ci ne va plus pouvoir se défendre contre des maladies et des infections qui normalement ne vous atteindraient pas. Par exemple, un rhume, ou par exemple, si vous vous ouvrez la peau avec une blessure, vous allez avoir plein d'agents pathogènes qui vont vouloir rentrer dans votre corps, et si votre système immunitaire est complètement affaibli, elles vont causer une infection grave. Et le problème de ce virus, qui fait que jusqu'à aujourd'hui on n'a toujours pas trouvé de vaccin, c'est qu'il y a une grande variabilité génétique au sein d'un même groupe. Et à chaque fois qu'on essaie de mettre en place un vaccin, on tombe sur une souche différente qui a muté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on a vraiment des problèmes à trouver un vaccin efficace. Pour l'instant, on n'en a pas trouvé. Enfin, je vais finir par le virus que vous connaissez maintenant, parce que c'est celui qui nous touche en ce moment, donc le SARS-CoV-2. Donc SARS, c'est pour syndrome respiratoire sévère aigu. Mais en anglais, donc c'est Severe Acute Respiratory Syndrome. C'est pour ça qu'on s'écrit SARS. Alors lui, c'est un des 36 virus de la famille des coronavirus. Il a une grande stabilité dans l'environnement par rapport aux autres coronavirus qu'on connaît. C'est pour ça qu'il est plus dangereux. C'est parce qu'il peut survivre jusqu'à une dizaine de jours, voire plus, sur plein de surfaces différentes. Et il possède une protéine qui est capable de contourner les effets de désacidification des agents lysosomotropiques dont la chloroquine fait partie. Qu'est-ce que ça veut dire, ce charabia? Donc en fait, les agents en question, c'est des agents qui s'accumulent dans les lysosomes. Donc c'est des organites cellulaires qui permettent, entre autres, d'éliminer les déchets cellulaires. Et donc l'action de tels agents, dont la chloroquine fait partie, permet de diminuer l'acidité des lysosomes et empêche les conditions requises par le virus pour infecter la cellule. Et lui, le virus, il possède une protéine qui permet de contourner ces effets. C'est pour ça qu'il est aussi difficile à traiter. Alors j'ai entouré en bleu là un récepteur membranaire qui s'appelle ACE2. C'est le récepteur que le virus utilise pour entrer dans la cellule. Et en fait, ce récepteur, quand vous n'êtes pas infecté par le virus, à quoi il sert? Il sert à vous protéger contre notamment des lésions pulmonaires. C'est pour ça que quand le virus vous attaque, il bloque le rôle protecteur de ce récepteur et donc il engendre des dommages pulmonaires a priori importants. Et ce que j'ai mis à droite, c'est que le traitement avec des anticorps qui se fixent à ces récepteurs peut inhiber l'infection du virus parce que bah, du coup, le virus, comme il ne peut plus accéder à ses récepteurs parce que les anticorps l'en empêchent, ça peut limiter l'infection. Mais bon, jusqu'ici, ce n'est pas un traitement qui, jusqu'ici, d'après ce que j'ai pu lire, a assez fait ses preuves parce qu'il bloque quand même un récepteur qui est utile en temps normal pour votre corps. Donc c'est un problème assez complexe. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que je n'ai pas assez d'expertise, mais voilà, c'était pour vous donner un peu une approche. Si vous voulez avoir un cycle plus complet du virus, parce que là, on voit juste l'entrée dans la cellule, je vous renvoie vers l'article scientifique que j'ai mis là en référence. Et par rapport à ce que j'ai dit à droite, on a aussi publié hier un billet de blog sur le site du comité para par rapport à une review de 2007 qui explique un peu en détail comment le premier coronavirus de l'épidémie de 2003 en Chine du Sud avait émergé et comment il fait pour... quel est son cycle de vie en fait. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention, j'espère que j'ai été assez clair, que tout le monde a pu suivre jusqu'ici. Ces images, c'est juste une petite, un coup de pub pour une compagnie anglaise qui fait des agents infectieux, que ce soit des virus, des bactéries ou autres, en peluche en fait. Donc voilà, je trouvais ça assez mignon, c'était un petit clin d'œil. Voilà, donc merci et j'attends vos questions.